Rencontre avec Loïc Barrière sur Radio Orient.
L'invité de rencontre est Rémi Rioux, directeur général de l'Agence française de développement, auteur avec Achille Mbembe du livre « Pour un monde en commun, regard croisé entre l'Afrique et l'Europe » aux éditions Actes Sud. Bonjour.
Bonjour.
Alors, nous allons parler du livre, de la situation politique française. Mais d'abord, est-ce que vous pouvez nous parler de ce qu'est cette agence française chargée donc du développement, une agence qui gère des budgets extrêmement importants, Rémi Rioux?
Alors oui, l'Agence française de développement, l'AFD, c'est l'institution qui finance, accompagne tous les projets de développement de nos partenaires internationaux qui souhaitent créer un lien, coopérer avec la France, un lien concret, un lien au service des populations. Elle a grandi au fil du temps, c'est une vieille maison, elle a 80 ans. Aujourd'hui, elle est née le 2 décembre 1941 à Alger, à Dakar, à Londres, pas à Vichy, je le précise. C'était la caisse centrale de la France libre et puis elle s'est étendue maintenant dans 115 pays dans le monde avec lesquels on a à peu près 1000 projets chaque année financés, accompagnés pour 12 milliards d'euros. Donc c'est une institution financière qui a, je crois, la taille critique dans le monde et qui est un certain visage de la France, un visage amical, respectueux. En particulier, on a un département qui s'appelle les Orients, donc je suis très heureux d'être à Radio Orient pour en parler.
Alors justement, Rémi Rioux, quelles sont les actions menées par l'AFD dans les pays de la Méditerranée? Je pense à des pays qui ont de grands besoins actuellement, je pense au Liban en particulier.
Alors j'étais au Liban à plusieurs reprises, évidemment, y compris lors du dernier déplacement du président de la République en août. Et bien sûr, on est très très attentif à la situation actuelle. Il y a un nouveau gouvernement maintenant. On espère, en suivant les discussions à Washington aussi, que les discussions avec les institutions financières internationales, le Fonds monétaire, la Banque mondiale vont reprendre et permettre de fixer un cadre dans lequel tous les acteurs, y compris l'AFD, au nom de la France, pourront s'inscrire. Alors on n'a pas abandonné le Liban, hein, loin s'en faut, simplement on passe maintenant par la société civile. Hein, donc on travaille beaucoup.
Vous contournez le gouvernement en fait.
L'AFD elle a cette caractéristique finalement de travailler avec tout le monde dans un pays. Elle travaille avec les gouvernements, c'est à peu près la moitié de ce qu'elle fait. Mais dans la situation financière actuelle du Liban, ça n'est pas possible de prêter. Et puis elle travaille, ça c'est l'autre moitié de nos 12 milliards, 6 milliards, avec les collectivités locales, avec le secteur privé, avec la société civile, avec les ONG. Tous ceux finalement, à nouveau, qui souhaitent un lien avec la France, un lien positif, un lieu constructif et de long terme. Et donc c'est ce qu'on fait bien sûr au Liban, malgré et dans la crise.
Et j'imagine qu'actuellement il y a une grande inquiétude en Méditerranée en raison de ce qui se passe en Ukraine et la crise du blé qui risque de conduire à de la famine dans certains pays.
Moi je l'ai dit très tôt, dès 2020, publiquement d'ailleurs, la crise d'abord de la Covid-19, c'est une crise, je dirais, des classes moyennes, la Covid-19. Là où elle a frappé finalement le plus durement, c'est souvent dans ces pays émergents, émergés, je dirais des classes moyennes du monde, à la fois en géopolitique, vous voyez, dans les pays, et aussi dans les pays, c'est souvent les classes moyennes qui ont été frappées, y compris dans leur espoir de progresser, que leurs enfants vivent mieux. Et ça, c'est extrêmement dangereux pour toutes ces sociétés. Et c'est particulièrement le cas, vous avez raison, en Afrique du Nord et au Proche-Orient. Donc, il y a une attention très particulière. Et s'ajoute à ça, évidemment, les conséquences maintenant de la guerre en Ukraine. En particulier, 80% du blé, vous le savez, en Égypte, vient de Russie et d'Ukraine. Et le pain, c'est la vie, bien sûr, dans de très nombreux pays du monde arabe. Donc il va falloir trouver dans les mois qui viennent, probablement dans les 2 années qui viennent, des solutions financières et techniques.
Alors Rémi Rioux, vous dirigez l'Agence française de développement et vous publiez un livre absolument passionnant, Pour un monde en commun, regard croisé entre l'Afrique et l'Europe. C'est un dialogue avec un grand intellectuel africain, Achille Mbembe. Et dans ce livre, vous évoquez par exemple la question de la décolonisation sous le prisme de la mémoire, de la réparation. Il faut aborder ces questions aussi quand on parle de l'aide au développement.
Oui, bien sûr, l'aide au développement, c'est un mot qui a l'air technique comme ça, mais il s'agit au fond du projet que nous pouvons bâtir avec les autres pays du monde. Et pour bâtir ce projet sur des bases solides, bah, il faut une intelligence du passé. Et comme je vous le disais, l'AFD, ça fait 80 ans, ça fait 30 ans qu'on travaille au Maroc, donc on a une très longue histoire avec l'Algérie, on a absorbé la CEDA, qui était la Caisse de Développement de l'Algérie en 1968, donc on sait ce qui s'est passé, on est un capteur finalement de ces évolutions, et je pense, c'est ce que j'ai appelé dans un autre livre, le processus de réconciliation, je pense que c'est en changeant la réalité, c'est en contribuant à un projet de long terme, finalement, qu'on va permettre de réconcilier des sociétés, de sortir finalement un peu du surplace dans lequel on est encore trop souvent, je crois, en Méditerranée.
Et Rémy Rioux, ce livre rappelle que notre monde actuel a été façonné notamment par l'esclavage et la colonisation. Est-ce que vous considérez que l'aide au développement est une forme de réparation? Comment nommer aussi ce qui s'est passé sans forcément passer par la repentance, qui est un mot utilisé notamment par la droite et l'extrême droite en France?
Vous savez, j'accompagne le président de la République, Emmanuel Macron, dans tous ses déplacements. Depuis maintenant 5 ans, on s'éloigne de la Méditerranée, mais vous savez le travail qui a été accompli au Rwanda. Travail de vérité, travail d'histoire avec la commission de Vincent Duclert, et puis travail de réconciliation, travail d'action avec l'AFD. Pour préparer le futur, j'ai évidemment été très attentif à ses propos, à ses tentatives en Algérie. Donc je dirais pas, et à chaque fois le président n'a pas voulu faire un travail de repentance. Vous voyez, au sens où je demande pardon et puis après on n'en parle plus. Je crois que c'est un travail beaucoup plus profond qui est nécessaire, encore une fois, qui est un travail de vérité, un travail d'histoire, et on a encore de l'histoire à faire. Je suis historien moi-même, Achille Mbembe est historien, en Afrique francophone, en Méditerranée. Il faut encourager la recherche historique, elle est essentielle, et un travail d'investissement, je dirais, d'investissement solidaire, et de telle sorte que nos relations s'inscrivent dans la durée. Vous voyez, il ne s'agit pas de demander pardon et puis c'est fini. En fait, ça, ce serait une forme de réparation. Et on a ce débat en France, hein, précisément maintenant. Est-ce qu'on se sépare ou est-ce qu'on se lie? Et est-ce qu'on réinvente finalement des liens qui libèrent?
On va parler tout à l'heure du second tour de l'élection présidentielle, Rémy Rioux. J'aimerais d'abord que vous nous parliez de la diplomatie des vivants, une expression que vous employez dans le livre et que je ne connaissais pas. Ça peut être intéressant d'en parler aux auditeurs de Radio Orient.
Alors, on est dans un monde tellement fragmenté, tellement en tension, la guerre aux portes de l'Europe, ces problèmes alimentaires, il faut qu'on invente, je crois, une nouvelle forme de diplomatie qui serait adaptée aux enjeux si pressants de ce siècle. Une diplomatie, évidemment, du vivant, ça veut dire élargie aux questions environnementales, aux questions climatiques, aux questions de la biodiversité. Les vivants, c'est pas tout à fait les humains, c'est plus large encore, hein, et on sait le péril qui nous guette dans ce domaine. Une diplomatie du vivant, ça veut dire aussi une diplomatie qui lie l'international et le national. Je crois que si on veut lutter contre la crise climatique, ça n'est pas une question internationale, c'est une question qui suppose de transformer nos sociétés elles-mêmes. Et puis troisième chose, qui est une rupture par rapport à l'art diplomatique historique de l'époque classique, c'est il s'agit plus d'équilibrer des forces, il s'agit plus de rééquilibrer des déséquilibres de puissance. Il faut qu'on trouve une méthode, une façon. Je crois qu'on l'a un peu trouvé au moment de la COP21, vous vous souvenez, moi j'en étais un des acteurs avec Laurent Fabius, pour que non, on ne rééquilibre pas, en fait on avance. Il faut que toutes les puissances trouvent des voies pour avancer et trouver des solutions à ces immenses défis qui sont devant nous.
Rémy Rioux, vous avez évoqué le réchauffement climatique et vous écrivez dans le livre que l'AFD est un capteur unique sur le front des dérèglements climatiques et sociaux. Vous voulez dire qu'à travers tous les projets que vous financez, vous voyez concrètement les conséquences du réchauffement climatique?
C'est vrai de l'AFD, c'est vrai de tous nos frères et sœurs des banques publiques de développement. Moi, j'ai créé un très grand mouvement qui s'appelle Finance en commun. On a beaucoup de banques publiques dans le monde, on en a 550 qu'on a réunies et qui sont effectivement, par exemple au Maroc, c'est la Caisse des dépôts et de gestion de mon ami Abdelatif Zarnoun. On a des collègues en Tunisie, il y a beaucoup de banques publiques en Égypte aussi. Tous ces gens-là qui financent au quotidien, au ras du sol, des projets d'agriculture, des projets d'eau et d'assainissement, ils voient ces dérèglements en fait. Et ils les voient pas seulement dans la dimension environnementale, ils les voient aussi dans la dimension sociale. Parce que tout l'enjeu maintenant, c'est d'arriver dans chaque action, dans chaque investissement, à être positif pour le climat, mais pas au détriment, évidemment, des inégalités, en créant de nouvelles inégalités, au détriment du lien social. Et donc on est des machines, finalement, des institutions, à mon avis, très en pointe, qui peuvent diffuser, évidemment, aux autres acteurs, cette façon de faire pour avancer en préservant ces équilibres indispensables aux sociétés.
Avant le premier tour, on a beaucoup parlé, en tout cas on en a parlé un peu, je devrais dire, des réfugiés climatiques. Là, ça a un peu disparu entre les deux tours, il y a d'autres enjeux. Véritablement, vous nous dites que c'est une question qui va se poser dans les années qui viennent. On ne pourra pas parler de migration sans parler du climat.
C'est une question qui se pose déjà, en vérité. On est très présent dans le Sahel, les mouvements ne sont pas liés qu'aux troubles de sécurité. C'est aussi la dégradation de la situation, le péril, la gestion de l'eau. Nous, c'est notre grande priorité en Méditerranée, évidemment. C'est plus de 40% de ce que nous faisons au Proche-Orient, par exemple. On a un très grand, très beau projet qui s'appelle Water Banking dans les territoires palestiniens, qui cherche précisément à mieux gérer la ressource en eau, s'en servir pour l'irrigation. Donc si on ne le fait pas, si on n'innove pas aussi dans la façon de gérer cette ressource de plus en plus précieuse, les gens vont migrer, bien sûr, pour aller là où ils peuvent offrir un avenir à leur famille.
Alors vous vous apprêtez à effectuer un voyage au Niger. C'est un pays qui possède une ressource très recherchée, l'uranium. Et pourtant, la population reste très pauvre et ne semble pas profiter de cette manne. Comment on arrive à trouver une solution à un tel problème?
C'est un pays qui, vous le savez, connaît une très forte croissance démographique aussi. Donc, les pays sahéliens, comme beaucoup de pays d'Afrique subsaharienne, sont aussi dans une course un peu entre les investissements, et Dieu sait si ces pays, par exemple, ont mis leurs enfants dans des écoles, remarquablement, depuis 20 ans, et la création d'activités économiques, et puis l'augmentation de la population. Donc à un moment, le ratio et le revenu par habitant a du mal à décoller. Ça ne veut pas dire que ce sont, comme parfois les gens l'ont en tête, des pays où il ne se passerait rien, ou des pays abandonnés, ou des pays relégués. Moi, je me bats pour qu'on change la vision qu'on a du Sahel. C'est la région d'Afrique où il y a la plus forte taux de croissance depuis maintenant près de 10 ans, le Sahel. Tout le monde pense le contraire. Et puis, c'est cette raison charnière. Nous, on a arrêté de couper l'Afrique en deux, entre Afrique du Nord et Afrique subsaharienne. Et il faut absolument explorer les liens entre le Sahel et les pays côtiers du Golfe de Guinée, évidemment, mais plus intéressant encore, et on ne le fait pas assez, les liens entre la bande sahélienne, synapse vers l'Afrique du Nord. Et chercher ensuite, évidemment, les actions qui vont permettre de répondre à ces défis.
Alors, vous nous avez dit tout à l'heure que vous vous êtes rendu dans la région des Grands Lacs au Rwanda, pays meurtri par un génocide. Est-ce que vous pouvez nous parler aussi de la chaire de philosophie ouverte avec la philosophe Cynthia Fleury?
Alors, Cynthia Fleury, vous le savez, est une philosophe très, très renommée, qui a une chaire ici à Paris, qui travaille sur soins et humanité, en fait. C'est-à-dire remettre, pour le coup, de l'humain...
À l'école des arts et métiers, je crois.
Voilà, remettre à Sainte-Anne aussi, avec différents établissements hospitaliers, sortir d'une vision peut-être très technique de la médecine, chaque pathologie avec ses techniques, et reprendre en pleine conscience la capacité finalement des patients à être leurs propres soignants. Et Cynthia est venue me voir avec le docteur Mukwege, prix Nobel de la paix, pour nous proposer d'accompagner un très beau projet qui est d'installer une antenne de cette chaire à Panzi, dans la clinique, vous savez, qui soigne ces femmes victimes de la violence, de la guerre, et qui ont évidemment une expérience humaine qu'on ne trouve pas en France. Et donc, c'est une expérience, c'est un investissement intéressant parce que finalement, on peut apprendre des choses partout dans le monde qu'on n'a pas chez nous. Et moi, je suis très attaché à ça. Finalement, l'AFD, je vous l'ai dit, elle est née à Alger, elle est née à Brazzaville, elle est née à Beyrouth, elle est née en Afrique. Son rôle, finalement, c'est bien sûr de représenter la France, un certain visage de la France, mais c'est aussi, peut-être c'est plus important encore, de ramener en France ce que nous apprenons, des innovations, des acteurs engagés, de tous ces pays, de tous ces acteurs qui cherchent des solutions pour le développement durable.
Alors Rémi Rioux, je ne sais pas si vous allez accepter de commenter la situation politique, mais nous sommes tout de même à la veille d'un second tour très serré entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Emmanuel Macron, que vous avez accompagné dans de nombreux déplacements. Ce second tour, qu'est-ce qu'il nous dit finalement du rapport des Français au reste du monde, puisque il est quand même question de la préférence nationale?
Je crois qu'il y a, une grande tension qui existe dans toutes les démocraties du monde, à dire vrai. On l'a vu aux États-Unis, on l'a vu au Royaume-Uni, on le voit aujourd'hui en France, entre deux lignes politiques, finalement une ligne qui revient à opposer le national et l'international, perçu toujours comme une menace ou comme quelque chose qui vient troubler de supposées identités ou menacer des intérêts. Et puis une autre ligne, encore une fois celle que construit le président Macron depuis 5 ans, avec beaucoup de force et d'engagement, qui est une ligne qui cherche à combiner finalement, à réconcilier la transformation nationale et le travail international entre tous les acteurs de bonne volonté à un niveau supérieur européen ou mondial. Évidemment, l'AFD, moi-même, sommes dans cette veine, évidemment, puisque je crois qu'il n'y a aucun problème aujourd'hui, on l'a vu avec la crise de la Covid-19, qui ne suppose à la fois de protéger sa propre population, donc il faut des réponses nationales, évidemment, mais également un surcroît de coopération internationale, faute de quoi la pandémie continue à courir, et c'est vrai pour tous ces grands problèmes.
L'élection de Marine Le Pen, ce serait clairement une rupture historique, vous qui êtes historien. Est-ce que dans votre domaine, l'aide au développement, vous redoutez des coupes sombres, par exemple, dans votre budget ?
Je comparerais avec peut-être ce qui s'est passé aux États-Unis d'Amérique ou ce qui s'est passé au Royaume-Uni dans la foulée du Brexit ou avec l'élection de Donald Trump, où effectivement il y a eu un coup d'arrêt très net à la coopération internationale. En tout cas une inflexion très sérieuse, y compris dans les volumes des investissements qui sont consacrés dans ces deux pays. Donc je ne préjuge pas de l'avenir, évidemment, ni du vote des Français qui sont libres. Nous vivons en démocratie, mais on peut le craindre, bien sûr.
Merci Rémi Rioux. Je rappelle que vous êtes directeur général de l'Agence française de développement et vous publiez avec Achille Mbembe Pour un monde en commun, un livre publié aux éditions Actes Sud, un livre que je recommande à nos auditeurs. Merci d'avoir été l'invité de Rencontre.
Merci à vous.